Bienvenue à ce deuxième discours. Plusieurs fois dans les questions-réponses ou dans le discours précédent, j'ai abordé cet espace de nous-mêmes qui était au-delà de ce qu'on connaît de nous-mêmes, ou cet espace du musicien qui doit disparaître, ce musicien qui doit disparaître pour que la musique puisse se produire. Cette notion que, aussi dans, suite à une question de ce matin, que cette notion qu'on retrouve dans plusieurs cultures, en fait, qui est une ignorance fondamentale de notre propre nature, et que cette ignorance de notre nature, de qui on est vraiment, c'est pas une ignorance. C'est pas comme s'il y avait quelque chose comme un gros trou vide et qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas conscience qu'on ne sait pas. Et c'est ce qui se passe toujours avec l'esprit, c'est qu'il remplit les trous et du coup, en fait, on ne vit pas comme une si on ne savait pas, on vit comme si on savait qui on était. Et c'est beaucoup plus sécurisant, évidemment. Mais du coup, cette ignorance, c'est pour ça que parfois aussi elle est appelée une illusion. Parce qu'elle donne naissance à une illusion, comme on ne sait pas vraiment profondément qui on est, du coup, on imagine qu'on est, et alors là, derrière, ben, chacun a sa construction de ce qu'on imagine qu'on est. Et dans beaucoup de traditions, je pense au soufisme, que je trouve très intéressante, à l'Advaita, le nom du dualisme hindou, et puis à l'hindouisme lui-même et au bouddhisme. Voilà, c'est un peu les traditions que je vais connaître. Pour beaucoup de, donc pour toutes ces traditions, en fait, il y a une souffrance inhérente au fait de cette illusion. C'est-à-dire que, en fait, si par exemple on pense à la critique intérieure, beaucoup de la critique intérieure qu'on connaît tous, cette manière de s'estimer, de temps en temps se sentir super-héros et de temps en temps se sentir vraiment naze et d'être toujours en comparaison, en compétition, faire une image de soi. Et souvent, cette image, parfois, certains sont très durs, avec des mots très durs vis-à-vis de nous-mêmes, et une grande insécurité. Tout ça naît de l'image qu'on a de nous-mêmes, de ce qu'on croit qu'on est. Et cette croyance, en fait, elle n'est pas. Elle doit être soumise à investigation. Si on investigue vraiment, tiens, qui est-ce que je pense que je suis? Quelle est mon idée de moi-même? Et est-ce qu'il y a des indices d'autre chose que je n'aurais pas vu de moi-même? Et c'est ça aussi la pratique de la méditation, c'est de découvrir qu'en fait, il y a des moments dans lesquels ces constructions sont moins présentes. Et que du coup, il y a quelque chose de plus ouvert. Et là, il y aura automatiquement moins de critiques intérieures, par exemple. Et donc moins de souffrance. Et cette échelle-là peut aller jusque de plus en plus ouvert, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins une idée de nous-mêmes, même de moins en moins une idée d'un individu séparé, de moins en moins la perception et la sensation d'un individu séparé en méditation, on peut, ou quand on marche dans la forêt parfois, ou quand on danse sur le rythme de la musique, il y a des moments où on n'est plus un individu séparé. C'est pas super conscient, on se dit pas « waouh, c'est trop génial, ça y est ». Enfin, je suis un individu non séparé, parce que ça, c'est la séparation, ça. Mais il y a une expérience, en fait, difficile à discerner et pourtant tellement essentielle parce qu'elle parle de notre essence, de qui on est quand toutes ces constructions ne sont pas présentes à notre esprit. Et donc, dans toutes les traditions que je connais, il s'agit, en fait, de démasquer l'illusion, d'assouplir un peu déjà ces certitudes qu'on a à propos de nous-mêmes et de fragiliser même un petit peu ce sol sur lequel on tient, sans couper complètement toutes les bases, mais petit à petit, être juste à même de n'être personne. Et comme je le disais aussi en réponse à une question, je pense, ce cheminement, pas pour devenir quelqu'un, la méditation, on n'essaie pas de devenir quelqu'un, on essaye de n'être personne, de ne pas être impliqué dans toute cette construction et cet entretien de notre identité superficielle. Donc par la méditation, on peut observer tout ce qui est observable, tout ce qui va et qui vient. Et en observant tout ce qui est observable, on va automatiquement devenir connaisseur de nos fonctionnements, connaisseur de ce qui nous compose, connaisseur de comment l'extérieur impacte sur l'intérieur, connaisseur du type de pensée qui émerge, connaisseur de comment les pensées et la danse des pensées et des relations, connaisseur du corps, connaisseur des différents états du corps. Connaisseur, comme quelqu'un me le disait tout à l'heure, de comment le temps est en fait fluctuant et comment en fait le temps aussi est une construction qui de temps en temps se perd un peu ses frontières, ses limites et se dissout. Et peu à peu, par la méditation, par le fait de s'intéresser, d'être curieux, d'observer, en fait, on va acquérir une connaissance dans notre expérience. Une connaissance qu'on ne peut pas acquérir dans des livres, qu'il est impossible d'acquérir dans des livres. C'est juste par l'observation que soi-même on peut l'acquérir. Les livres peuvent nous, les livres ou les enseignements ou d'autres personnes peuvent nous donner des idées de comment observer ou nous dire tiens, observe un peu ça. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Et puis on observe ça et on fait ah ouais, j'ai trouvé quelque chose. Mais c'est dans ce sens-là. Beaucoup de choses de ce qu'on trouve aussi, quand on observe, on n'est pas conscient en fait. On n'est pas conscient, par exemple, en méditation, même dans la vie d'une façon générale. Et, si vous vous rappelez, quand vous étiez enfant ou adolescent, la manière dont on voyait la vie, on avait plein d'idées à propos de la vie qui ont complètement changé, mais ce n'est pas parce qu'à un moment on s'est dit, bah, tiens, je vais changer d'idée. Ça s'est fait tout seul. Et même ces idées, elles pouvaient générer des peurs, des difficultés relationnelles avec nous-mêmes et avec les autres. Et un jour, elles sont parties, mais elles partent sans faire de bruit, en fait. Tout ce qui est problématique part sans faire de bruit. Et cette connaissance qu'on acquiert de soi-même fait que des choses s'en vont parce qu'elles ne sont plus nécessaires. Et ce n'est pas parce qu'on a plus de compétences pour être juste ou être plus ouvert, ça se fait tout seul. Et donc là, on appelle ça, c'est un chemin de connaissance, cet aspect de la méditation. Et il y a cette notion que plus il y a cette connaissance, plus il y a cette capacité d'être en lien avec soi-même, plus il y a cette capacité de n'être personne, plus automatiquement l'amour peut s'exprimer, en fait, avec de moins en moins de restrictions. Les restrictions viennent plus il y a un ego fort, donc une sensation d'être très différent des autres et avec beaucoup de discernement entre moi et autrui, plus c'est difficile en fait d'aimer. Et donc ça aussi, ça fluctue quand cette individualité se dissout, il y a une sensation d'amour qui est plus présente et qui du coup va pouvoir toucher ce qui est là. Mais déjà en elle-même, dans cette sensation de présence, il y a une sensation d'amour, il y a une sensation de plénitude, une sensation de ne manquer de rien. Hein, il y a des moments de méditation, ça je trouve ça très beau aussi. Remarquez-le, c'est pas des, je ne suis pas en train de décrire des trucs juste pour les grands maîtres qui flottent sur des nuages, mais des choses de notre propre expérience, qu'il y a des moments, la méditation c'est tellement souvent, c'est difficile. Mais parfois, il y a des petits moments où on est bien là. Hein, on est juste bien là. Et puis, ces moments où on est bien, en fait, c'est pas transcendant, mais en même temps, il y a une qualité dans ces moments-là, parce qu'en fait, dans ce moment-là, on se rend compte qu'on ne pourrait pas ajouter quelque chose pour que ça soit mieux. On n'est plus en train de chercher à réussir, on n'a plus d'objectif, et il ne manque rien pour que ce moment soit complet. On se sent complet. Ça, c'est une qualité d'amour, ça. Tout est là. Et puis, si on est en dehors de la méditation, dans cet état-là, et que quelqu'un passe, eh bien, automatiquement, on va être plus ouvert. Et à être plus ouvert, on va rencontrer cette personne qui passe, ou peut-être pouvoir l'aider, même s'il y a besoin, ou en tout cas se connecter humainement, parce qu'on n'est pas enfermé dans notre petite boîte. Et du coup, on va vivre de l'amour. Parce que l'amour, lui, il est là et il peut sortir. Et à d'autres moments, on est très pris dans notre identité, très séparés, et à ce moment-là, il y a plein de situations autour de nous qui ne peuvent pas nous atteindre, qui ne peuvent pas nous toucher, et du coup, on vit moins d'amour. Donc là, la capacité, c'est pas vraiment la capacité, c'est le fait d'être aimant qui est un des indicateurs principaux d'une pratique spirituelle authentique. Si au fur et à mesure des années qu'on pratique, en fait, on n'est pas plus aimant, c'est-à-dire plus attentionné aussi, vis-à-vis de nous-mêmes, comme vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de tout en fait. À ce moment-là, ça veut dire que notre pratique spirituelle, il y a des choses à régler, il y a des choses qui ne sont pas. C'est peut-être beaucoup de l'ordre du mental, des idées, des grandes théories, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, on doit automatiquement sentir dans le quotidien plus d'ouverture, plus d'acceptation, plus toutes ces qualités de l'amour, en fait, de tolérance et de sens de connexion, de se reconnaître dans l'autre, de prendre soin. Alors, pendant des années, pendant très longtemps même, moi j'ai été surtout intéressé par le chemin de la connaissance. Et donc, voilà, toutes mes méditations, en fait, étaient des méditations pour observer, pour être avec. Et puis, peu à peu, au début, la philosophie ne m'intéressait pas beaucoup. Après, j'ai vu l'importance énorme de la philosophie. Donc, il y avait aussi la philosophie, une philosophie de la méditation, plus la pratique de la méditation, de ramener l'attention sur moi, de pleine conscience. Et je ne sais pas il y a combien de temps, peut-être une dizaine d'années, où j'avais souvent entendu parler d'une autre approche de pratique qui existe principalement dans le bouddhisme, mais qui ressemble aussi dans le christianisme à la prière ou quelque chose comme ça, et qui est une autre approche de la méditation, qui est utilisée aussi dans le bouddhisme, que je vais décrire maintenant et puis que je vais guider. Et cette approche, pendant longtemps, elle ne m'a pas tellement intéressé parce que elle me semble. Enfin, il y a beaucoup de raisons, ça, j'y reviendrai peut-être après. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est il y a une dizaine d'années que j'ai réalisé que déjà mon but, en fait, c'était d'être capable d'être plus en lien avec toute chose autour de moi et avec moi-même, et d'être plus aimant, plus ouvert. C'est quelque chose que je rêverais, ça, de réussir à être plus aimant, plus ouvert, plus acceptant, hein? C'est dans mes objectifs et dans mes envies profondes. Et donc, mais j'avais cette idée que, en suivant le chemin de la connaissance, cette illusion, ces croyances en de croire que bon, je vais pas y arriver. Ces idées que j'avais à propos de moi-même. Et cette identification à mes idées, plus elle allait se dissoudre, plus naturellement j'allais aimer. Et voilà, puisque c'est ces idées de moi-même qui m'enferment un petit peu et qui me font critique vis-à-vis de moi-même et du coup vis-à-vis des autres aussi et qui créent la distance. Et je crois toujours que c'est vrai, mais ce que j'ai compris, c'est que ça va vraiment un long chemin et j'ai pas le temps. Parce que ça bouge doucement en fait. Ça s'ouvre, c'est magnifique, hein, c'est magnifique là, ces chemins de connaissance de soi, connaissance de soi, mais vraiment d'une perception directe de soi-même. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Et effectivement, ça libère. Mais quand j'ai compris en fait le bien fondé de cette autre approche de la méditation, que Bouddha appelait la seconde aile de l'oiseau. Il disait, l'oiseau a deux ailes pour voler, et les deux ailes, c'est sagesse et compassion. Et il les mettait au même niveau, ces deux pratiques. Dans différentes traditions, comme je le disais, on parle de la dissolution de l'ego. Alors, il faudrait définir, on va pas prendre le temps ici, donc restons assez vagues. La dissolution de l'ego, c'est un peu la dissolution déjà de cette excroissance que chacun a à certains moments, qui apparaît et qui disparaît, dans lesquels subitement on est beaucoup plus important que tout le reste. Et donc la dissolution en fait de l'ego. Et donc je le disais, il y a ce chemin de connaissance, mais il y a aussi en fait que quand on aime et quand on aime vraiment, l'ego est dissous. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble ces deux-là, l'amour et l'ego. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas être concomitants. Plus il y a d'ego, moins il y a d'amour. Plus il y a d'amour, moins il y a d'ego. Donc on peut jouer là-dessus aussi. C'est-à-dire si on veut vraiment se connaître, c'est pour ça que c'est les deux ailes de l'oiseau, parce que c'est le même oiseau en fait. Si on veut vraiment se connaître aussi en apprenant à être plus attentif et plus ouvert et plus acceptant et en développant les qualités du cœur, on va développer moins de dureté et de frontières très rigides. Et à ce moment-là, il y aura juste moins d'ego. On fera plus d'expériences d'amour. Donc en fait, ils se nourrissent parce que si je suis plus aimant, automatiquement je vais être plus en contact avec moi-même au-delà des idées que j'ai moi-même. Les idées de moi-même émergent beaucoup moins. Je ne sais pas si vous vous rappelez un moment être tombé amoureux, un coup de foudre ou. Dans ces moments-là, il n'y a plus de problème. Ils sont où les problèmes? Ils sont où les trucs? Il faudrait que je fasse un peu plus de yoga, il faudrait que je m'inscrive à un cours de ceci, ou vraiment ma vie, ça ne va pas, il faut que je change quelque chose. En fait, pendant un temps, tout ça disparaît. Après, ça revient. Mais pendant un temps, on remarque que, en fait, quand vraiment on aime, quand vraiment on aime, à ce moment-là, il y a une grande partie de ces problèmes qu'on cherche à solutionner par tous les moyens qui juste ne sont plus là, ils n'existent plus. Et quelque chose aussi, j'en parle souvent, et ce discours, en fait, ce thème-là est un discours sur lequel je reviens très souvent, et certains d'entre vous sont familiers, j'espère que vous n'en avez pas marre, mais c'est parce que je pense que. C'est une pratique tellement essentielle et en même temps tellement sous-estimée. Voilà, c'est là que je voulais en venir en fait. Donc, on a cette construction de l'ego, et dans cette construction de l'ego, en fait, c'est une chose qu'on voit beaucoup en méditation, on voit beaucoup la construction de l'ego. On voit toutes les pensées à propos de moi et moi, et éventuellement ma famille, mes amis, mon monde. Alors qu'on est censé être juste avec la respiration, on n'est pas beaucoup avec la respiration. On est beaucoup avec des pensées. Et c'est normal. Mais on connaît ses pensées peu à peu, on devient connaisseur de la pensée aussi, et du contenu et du fonctionnement. Et plus il y a d'ego, plus on va se sentir isolé, un peu seul, et plus on va avoir des problèmes. Ah, on a des problèmes, on a beaucoup de problèmes. Alors quand on a beaucoup d'ego, on a beaucoup de problèmes. Et alors quand on a beaucoup de problèmes, on cherche des solutions. Et dans la manière de chercher des solutions, c'est comme je le disais, on va dire, bah tiens, il faudrait que je médite plus, il faudrait que je fasse plus de ceci, il faudrait que je fasse moins de cela, peut-être il faudrait que je sais pas, j'aille dans un club de randonnée pour rencontrer des gens, ou il faudrait que. Et tout ça est peut-être bien vrai, hein, il faudrait que je fasse plus de sport, que je mange autrement, que. Enfin voilà, il y a plein de il faudrait que je, il faudrait que je. Mais en fait, si nous, à un moment. Donc, dans cette posture, dans cette identification à cette construction mentale qu'on appelle je, on est beaucoup en demande. On demande beaucoup à la planète, on demande beaucoup à notre entourage, on se demande beaucoup à nous-mêmes, on est beaucoup dans l'exigence et on a besoin de beaucoup de choses pour être heureux. Et plus on va aller loin là-dedans, plus on va être en demande et plus en insatisfaction. Et on va aussi demander, bien sûr, de la reconnaissance, de l'amour, et c'est parce qu'on en manque. Mais on en manque pourquoi? Parce qu'en fait, on ne passe pas assez de temps à aimer. C'est tricky, hein? On est en train de se faire avoir dans l'histoire. Parce que plus on se sent en manque d'amour, plus on cherche à être aimé, alors qu'en fait, quand on est vraiment en manque d'amour, ce qu'il faut, c'est aimer. Parce que c'est quand on aime qu'on le vit, l'amour, c'est pas quand quelqu'un nous aime. Si quelqu'un m'aime, mais que moi je ne l'aime pas du tout, je ne vais pas sortir grand-chose. C'est quand moi j'aime quelqu'un, à ce moment-là, là je vis de l'amour. Donc il faut, c'est dans ce sens-là en fait le premier mouvement. C'est là qu'on vit l'amour, c'est quand on aime. Et si on aime, à ce moment-là on se sent de moins en moins isolé. Et du coup on a de moins en moins de problèmes. Et il y a de moins en moins de l'ego. Vous voyez un peu le fonctionnement, comment la connaissance de soi et l'amour finalement mènent une danse et sont nécessaires l'un à l'autre en fait. Je vais décrire cette méditation que je vais guider après. Qui s'appelle Metta. Ça marche en signe, ça, Metta? C'est le nom de la méditation de compassion. En fait, c'est une méditation, une forme de méditation qui est très active. Déjà, ça, c'est la première raison pour laquelle je ne l'ai pas faite pendant 20 ans. Parce que c'était tellement agréable de me poser dans le vide. Et puis, avec l'idée de commencer à faire du boulot, là, d'imaginer des choses, et puis, enfin, vous allez voir, ça demande un peu du travail. C'est une méditation dans laquelle on imagine. Donc là, c'est déjà très intéressant parce que je m'intéresse de plus en plus à la présence de l'imaginaire comme une nécessité dans la méditation, mais ça ne sera pas pour ici au festival. Mais là, déjà, voilà, une petite touche d'imaginaire, on imagine, on se rappelle, on appelle à notre esprit quelqu'un qu'on aime bien. Donc on essaie de ressentir comme la présence de cette personne, comme si elle était, on peut même voir une scène, comme si elle est en face de nous dans un fauteuil. Et à cette personne, on va lui souhaiter des belles choses. Vous voyez, donc il y a toute une mise en scène et on va lui souhaiter d'être heureuse. Ça, en général, c'est le premier qui vient. Il n'y a pas photo. Plus ou moins, tout le monde veut être heureux. On ne va pas faire trop d'erreurs. Donc, on peut lui souhaiter d'être heureuse. On peut lui souhaiter d'être en bonne santé. Et puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on a envie de souhaiter à cette personne, en fait. Et on essaie de ressentir et de souhaiter. Voilà, je te souhaite ça. Et puis après un certain temps, on fait ça avec une autre personne qu'on aime bien. Et puis encore une autre. Voilà. Et là déjà, c'est agréable. Si vous rentrez un peu dedans, en fait, bah, ça vous connecte à une personne que vous aimez bien. Il y a des souhaits bienveillants et tout. Le cœur, ça y est, le cœur est allumé. Il y a de la présence du cœur dans la méditation déjà. Ça, c'est agréable. Et puis après ça, on va le faire avec soi-même. Ah non, c'est à soi-même qu'on va souhaiter des choses. Alors qu'est-ce qu'on veut souhaiter? Eh bien déjà ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on veut vraiment souhaiter? C'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Et là, déjà cette pratique, même si elle n'avait que cet intérêt-là, ce serait déjà fantastique parce qu'elle nous oblige à nous clarifier sur nos buts dans l'existence, sur ce qui vraiment importe. Parce que sinon, on peut passer notre existence sur la surface des choses, à se laisser avoir par ce qui attire le regard en premier, de nos jours on appellerait ça peut-être les réseaux sociaux, et à passer énormément de temps, pas que les réseaux sociaux, mais je veux dire, il y a tout un monde de futilité en fait, qui bizarrement peut nous sembler, si on ne questionne pas vraiment, plus important que les profondeurs. et qui nous absorbe. Mais si, imaginez si vous pratiquez jour après jour, de vous poser et au début de votre méditation, je fais ça plutôt au début, dire voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Et alors là, ça change avec le temps, avec l'évolution. Les mots que je trouve, les choses qui vraiment me semblent essentielles, en fait, ça se formule différemment, je le ressens différemment, ça évolue. Et du coup, je me souhaite ça. Et jour après jour, en fait, ça devient plus clair ce qui est important pour moi. Et ça, si on n'a pas de clarté sur ce qui est important pour nous, en fait, on va nulle part. Et alors, on est le jouet de nos émotions, on est le jouet de la publicité, on est le jouet de tout ce qui veut nous utiliser parce qu'on n'a pas de direction. Donc là, on se donne des directions, en fait. Imaginez si vous méditez un petit peu le matin et vous pensez, voilà, ce qui est important pour vous, peut-être, c'est d'être attentif aux autres, de ne pas s'engager dans des discours vis-à-vis de nous-mêmes qui créent de la souffrance, d'être libre de la souffrance, d'avoir une lumière qui s'allume à l'intérieur et qui rayonne sur tous les gens que je rencontre. Vous voyez, ça peut être poétique, vous pouvez, à force, découvrir vos propres mots et vos propres intentions. Parfois, ce qui se passe, c'est que quand on en vient à nous-mêmes, c'est tout de suite plus difficile. Pour les autres, ça va très bien, mais pour nous, se souhaiter quelque chose, là, on y croit moins déjà. Là, c'est la critique intérieure. C'est cet endroit-là que la critique intérieure va pointer son nez, d'une façon parfois très diffuse ou d'une façon parfois très claire. Et si c'est très clair, c'est pas agréable parce que, en fait, on va très vite remarquer que, ben non, en fait, quand je me sou... D'ailleurs, souvent, il y a des gens qui disent, oh, moi, quand c'est pour moi, je trouve aucun souhait, j'ai pas d'idée. Eh bien, on va dire, ben moi, en fait, ça va réveiller la critique intérieure. Je vous donne un exemple parce que vous allez voir comme c'est pernicieux. On pourrait dire, je me souhaite d'être en bonne santé, et directement, il pourrait y avoir une petite voix qui dit, il faudrait déjà que tu fasses du sport. Ah, les conditions arrivent là, et que tu arrêtes de fumer, hein, et que ceci et que cela, et ceci et cela. Et là, vous réveillez 10 minutes après, parce que du coup, on s'est fait embarquer par la pensée. Hein, avec un ressassement qu'on connaît très bien, parce qu'on l'a déjà entendu des milliers de fois, ouais, et les conditions, et du coup, en fait, on n'arrive pas à y croire. On n'arrive pas, en fait, à se souhaiter d'être en bonne santé. Je serai en bonne santé si. Mais sinon, non. C'est conditionnel. Et là, on essaye de changer ça, en fait. Parce qu'en fait, on a le droit de se souhaiter tout ce qu'on veut. Sans même se demander si c'est faisable, pas faisable, et tout ça c'est autre chose. Mais déjà, on a le droit de se souhaiter d'être heureux, on a le droit de se souhaiter d'être en bonne santé. Et on a le droit de se souhaiter ce qu'on a envie de se souhaiter. Et si on pratique ça pendant des semaines, des mois, des années, vous imaginez bien que quand la critique intérieure vient, eh ben on la voit, parce qu'on la connaît bien. Parce que parfois elle est venue, mais la lumière est allumée, donc elle a été vue. C'est ça la méditation, on allume la lumière. Donc la critique intérieure, on commence à bien la connaître, on l'a bien vue, et on sait aussi que ce n'est pas moi qui parle, la critique intérieure, c'est cette voix qui vient à chaque fois. Notre relation change un peu avec la critique intérieure et avec qui on est en profondeur. Après, on va... Alors cet ordre, je l'ai fait moi-même. Ça, cette méditation-là, vous faites dans l'ordre que vous voulez. Vous faites toutes les étapes, pas toutes les étapes. Chacun fait comme il veut. Après, ce que je fais, moi, je vais vers... J'appelle à mon esprit des gens qui ne sont pas ma famille, mes amis. Ou moi, ou des pas qui sont font pas partie de mon ego étendu. Des gens, en fait, qui soient heureux ou pas heureux, pourraient ne pas m'importer énormément. Alors que ma famille et mes amis, j'aurais vraiment, c'est facile d'avoir envie qu'ils soient heureux. Mais bon, si c'est le chauffeur de bus ou une caissière que je vois de temps en temps, ou voilà. Donc, J'appelle comme ça à l'intérieur des visages de gens que je connais peu, et en essayant de conserver la même authenticité, la même chaleur, et que ça soit vraiment vrai, en fait, je souhaite à ces personnes, en fait, d'être libres de la souffrance, de trouver les chemins du bonheur, d'être en sécurité, des choses que tout le monde veut finalement. C'est des souhaits moins spécifiques, parfois avec mes amis, ça peut devenir très spécifique. Là, c'est moi, c'est des souhaits plus généraux. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on entraîne notre esprit, parce que c'est un entraînement de l'esprit pour moi. On entraîne notre esprit à être attentif aux gens qui nous entourent. C'est-à-dire qu'après, quand je suis au contact de gens que je ne connais pas, parfois, je vais sortir un peu de mon petit vélo qui tourne en rond et me rendre compte qu'il y a des gens autour grâce à cette pratique, et du coup me connecter, me sentir plus connecté aux gens. Cette partie-là de la pratique, elle est super intéressante aussi à faire. Moi, un endroit que j'aime beaucoup, c'est dans les transports publics. Ou les aéroports, les endroits où il y a des gens, en fait. Et vous voyez là, les deux ailes de l'oiseau, on peut être, par exemple, dans une gare, on attend le train. Je vous disais tout à l'heure, bah, plutôt que d'attendre, on peut juste être là. Donc on attend le train, il vient dans un quart d'heure, on peut juste être là, on peut être avec la respiration et être conscient des pensées, quitter la pensée, revenir à la sensation d'être présent, ce qu'on fait en méditation, magnifique. Mais on peut aussi regarder les gens autour et ressentir à l'intérieur et entendre dans notre tête la formulation de « je vous souhaite d'avoir une bonne journée, que les choses se passent bien pour vous ». Ça peut être très simple en fait, hein. Et de vraiment sentir en fait qu'on souhaite pour cette personne ou cet enfant d'avoir une bonne journée et puis d'être libre de la souffrance et puis d'avoir une lumière qui grandit à l'intérieur de lui-même et qu'elle touche tous les gens qui l'entourent. Et c'est marrant parce que ça peut devenir même très... je trouve pas le mot, mais il y a quelque chose qui... ce serait quoi le mot? Non, c'est pas contagieux. C'est à l'intérieur de moi, ça devient, c'est pas lyrique, mais... C'est pas volubile non plus, mais il y a un enthousiasme vraiment. Et du coup, il y a une profusion de mots, comme une sensation vraiment de générosité, de contact, enfin. Et puis, en fait, on vit un moment d'amour. On vit un moment d'amour. Pendant ce temps-là, on aime ces gens qui passent et qui ne s'en rendent parfois pas compte. Parfois, c'est rigolo parce que quand même, on les regarde et du coup, il y a parfois des gens qui regardent et qui se demandent un petit peu, ou parfois, ça fait aussi des grands sourires. Ça fait contact. Souvent, quand les gens partent, ça je le dis à chaque fois, parce que vous voyez, si vous le faites, vous verrez que c'est vrai. Quand les gens sortent du bus, vous avez envie de leur dire au revoir, parce qu'on s'est rencontrés quelque part. Et du coup, ça, c'est juste beau, en fait, mais c'est pas que juste beau, en fait, parce que pendant ce moment-là, j'étais plus concerné par mes soucis et mes problèmes. Ils étaient où? En fait, ils n'existaient plus parce que quand il y a de l'amour, en fait, les problèmes, ils sont plus forcément là. C'est pas qu'ils ont été solutionnés, c'est juste que parfois, comme je le disais, une grande partie de nos problèmes existent parce qu'on n'aime pas suffisamment. Après vient l'étape suivante, ça va être d'appeler à notre esprit quelqu'un avec qui on a une difficulté. Et là, il faut vraiment commencer avec les petits dossiers, pas les gros dossiers. Mais c'est important. Peut-être juste quelqu'un qui met tout le temps ses chaussures sur vos chaussures ici au festival. Ou ça peut aussi être... quelqu'un qu'on aime bien, mais avec qui il y a une tension en ce moment, hein, dans le couple ou en amitié. Voilà, là, un endroit où il y a une tension, une petite difficulté, mais vraiment pas les grosses, parce qu'il faut s'entraîner d'abord. Et donc, malgré cette tension, malgré cette difficulté, eh ben, on appelle cette personne à notre esprit et on lui souhaite d'être heureuse, en bonne santé, de la souffrance, voilà ce qui vous vient en fait. Et là, de nouveau, c'est souvent des souhaits assez génériques, hein, un peu généraux comme ça, et puis on va passer d'une personne à l'autre. Alors, il y a parfois des gens qui disent, ouais, mais moi, j'ai pas tellement de gens comme ça avec qui j'ai des tensions. Ben, vous pouvez aussi chercher dans les personnages politiques. Ça va très bien. Peut-être que ce sera plus facile de trouver. Et toute personne publique, même historique. En fait, parce que ce qu'on cherche, c'est à vraiment déconditionner l'amour, c'est-à-dire à être capable de sentir une relation d'humain à humain. C'est pas forcément du coup je t'aime. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ce type d'amour. Mais c'est de rester dans une relation d'humanité avec des gens avec qui on est en conflit, qu'on apprend. Et ça, c'est super important, justement pour gérer un conflit. De ne pas briser le lien d'humain à humain, jamais, et de parler de là, et d'exprimer nos désaccords depuis cet endroit-là, plutôt que de laisser le lien se briser et puis du coup d'avoir deux camps. Hein, c'est la définition d'une guerre. Et c'est à ce moment-là qu'on fabrique un ennemi. Alors là, il y a un truc qui est typique, c'est que du moment où on va arriver à cette étape-là de la méditation, du moment où on va penser à une personne avec qui on a une difficulté, au revoir, on est parti dans l'histoire. L'histoire de la difficulté va nous prendre l'esprit, hein, surtout si vous essayez avec des difficultés un peu plus grosses, il y a l'émotion qui est là. La justice, la frustration, la colère, la tristesse, sensation de trahison, l'insécurité, toutes ces choses-là, en fait, et du coup, qui sont en lien avec une histoire. Et du coup, on se réveille 10 minutes après, et le corps tout tordu, un petit peu comme ça, avec les mâchoires serrées, et parce qu'on a revécu une fois de plus la même histoire, avec j'aurais dû, j'aurais pas dû, et tout ça. Donc là, quand on vient à ce moment-là de la méditation, moi, ce que je fais, c'est que quand j'arrive à ce moment-là, je sais en fait qu'il y a danger. Donc je me prépare, j'ai fini avec les gens que je ne connais pas, je passe avec là où il y a une petite difficulté. Là, j'allume, là c'est le spot halogène que j'allume, c'est pas la petite ampoule. C'est, je prends une respiration, et puis je me dis, ok, j'y vais, mais j'y reste pas. Et là, hop, je me connecte à cette personne. Je lui souhaite les souhaits qui me viennent, et puis je passe à quelqu'un d'autre en faisant bien attention de ne pas rentrer dans l'histoire. Et il y a des fois, ça marche. Après, on peut faire un groupe de personnes. Après, on peut faire traditionnellement, donc ça, c'est une méditation qui vient du bouddhisme. Après, on s'en va à toute la communauté des humains. C'est très intéressant aussi. Quand on commence à souhaiter à l'humanité, beaucoup d'entre nous ont du mal à souhaiter des belles choses à l'être humain. Et du coup, déjà, il faut dire, c'est très abstrait, toute l'humanité. On l'a jamais rencontrée. Et du coup, on s'adresse à quelque chose de plus. C'est presque une autre partie du cerveau qui nous permet en fait d'avoir une relation avec toute l'humanité. Mais surtout, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce à quoi on s'adresse, c'est l'image de l'humanité en nous. Et c'est ça qu'on soigne à cet endroit-là. C'est ça qu'on soigne, l'image qu'on a de l'humanité. Parce que si on a une image vraiment très mauvaise des humains, comme certaines personnes ont, hein, on peut entendre par exemple que, il faudrait que les humains disparaissent, qu'ils ne méritent plus enfin, peut-être c'est votre conception pour le moment, beaucoup de désenchantement par rapport à l'être humain et tout ça. Mais en fait, c'est très toxique de porter ça à l'intérieur et ça génère dans nos relations interpersonnelles avec d'autres humains et avec nous-mêmes qui sommes humains. En fait, déjà, ça met un sol toxique à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il faut absolument tous qu'on continue à aimer l'humanité. Ce qui ne veut pas dire être d'accord avec l'humanité. Ça, c'est autre chose. C'est pareil d'ailleurs pour les gens avec qui on a des difficultés. Le fait de leur souhaiter d'être heureux ne veut pas dire qu'on est d'accord avec leur attitude. Il faut qu'on soit bien clair avec ça, parce que sinon, ce n'est pas bon. puis tous les êtres vivants, et on inclut la planète. Ça, c'est le processus officiel dans le bouddhisme. Souvent, dans le bouddhisme, il y a des souhaits tout faits. Moi, j'aime faire les souhaits moi-même, je pense parce que j'avais une résistance par rapport au côté un peu religieux. C'était pas religieux, mais ça sonnait. Puisses-tu être en bonne santé, puisses-tu être libre de la souffrance, puisses-tu être... C'était des phrases ritualisées comme ça qui se répétaient pour tout le monde. Et moi, ça me faisait... Voilà, j'avais mes résistances, en fait, avec l'aspect prière et religieux, que j'ai beaucoup moins maintenant, en fait. Mais ça, à l'époque, m'empêchait aussi beaucoup de rentrer dans cette méditation. Et ce qui m'a permis d'y rentrer, c'est de faire des souhaits moi-même. C'est un peu plus encombrant, parce qu'il faut penser, tout ça, qu'est-ce que je lui souhaite et tout. Donc c'est plus lourd à manipuler dans notre esprit que si on a des phrases toutes faites. Mais par contre, il y a quelque chose où j'ai l'impression de plus authentique et dans lequel je suis plus dedans, en fait, dans mon souhait. Voilà, vous pourriez essayer les deux. Vous en trouverez plein sur Internet, des méditations de métta. Alors je vais la guider. Puis il y aura un temps de questions pour des questions. La partie personne avec des difficultés, vraiment, je vous enjoins, comme je le disais, de ne pas aller vers les. Si vous avez des grosses histoires et tout ça, de ne pas aller vers là. Et aussi, important de ne pas forcer. C'est-à-dire que si à un moment ça ne semble pas juste, pour une raison ou pour une autre, il ne faut juste pas le faire. Pas se dire, ah oui, mais c'est quand même, c'est parce que c'est bien et tout ça, non. On le fait si on sent que c'est juste. Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.